Sunderlight Production.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons nous consacrer à la capsule dans l'atelier. Dans cet épisode, nous allons parler avec JP Ferreira de 211 Cycle, GPS, applications et objets connectés. Vous verrez, on va faire un tour d'horizon sur tous ces points, c'est un sujet passionnant. A tout de suite.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Hello JP.
Salut Arnaud.
Ravi de te retrouver à nouveau sous cette forte chaleur pour parler matériel de notre rubrique Dans l'atelier. Comment est-ce que tu vas ?
Écoute, tout va bien. Il fait chaud ici aussi et je me suis même gratifié de mon premier vrai coup de soleil et presque insolation en 46 ans. Donc, j'ai le dos à peu près aussi rouge que mon t-shirt et une bonne tartine de crème. C'était sympa pour démarrer la saison estivale.
Voilà. Bon, écoute, moi, c'est pareil. Tu vois, quand j'ai un coup de soleil, bon, écoute, cette saison, tu vois, ça fait du bien des fois de prendre un bon coup de soleil.
Ouais.
Tu vois, ça fait les vacances.
Là,
je sais pas si
je peux le dire comme ça, mais enfin, bon, il est là. De toute façon.
Bon, écoute, avant qu'on entre dans le sujet du jour sur les objets connectés, j'aimerais que tu nous fasses un débrief des différents retours, des feedbacks que peuvent te faire les auditeurs sur nos précédents épisodes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ?
Écoute, je suis toujours ravi parce que je reçois pas mal de messages, je le sais comme toi, des gens qui vont demander un complément de conseil sur un point précis ou sur leur cas particulier. C'est intéressant et j'ai beaucoup de gratitude parce que bah, voilà, on a des gens qui captent le ton que toi et moi on a adopté et qui nous est cher et ce discours pragmatique et technique et argumenté et voilà qui plaît aux gens qui leur donne confiance a priori et c'est très bien, c'est l'idée et ça leur donne envie d'explorer de nouveaux territoires ou de tenter des nouvelles choses. Tu sais, on avait évoqué le fait que je lançais une formation dans l'esprit de l'atelier justement et de la maintenance vélo et j'ai bien tenu cette première formation et c'était très chouette de voir des gens impliqués. Ils m'ont même assez impressionné. Je leur fais un petit coucou aux deux premiers bêta-testeurs d'Eric et Guillaume et voilà, ils ont saisi les outils, ils se sont lancés sur leur vélo sur des opérations qui sont quand même importante à couper des pivots en carbone et tout et c'était génial parce que bah voilà ils ont pris possession de leur vélo enfin et je sais que notamment Guillaume a fait un grand trip après sur plusieurs jours de bikepacking et qu'il était beaucoup plus à l'aise parce que il était en confiance avec sa machine
ouais,
dont
clair.
Il maîtrisait les moindres détails quoi.
Ah non mais là-dessus c'est moi tu vois il y a un an quasiment jour pour jour c'était le 15 et là au moment où on enregistre l'épisode c'est la veille de sa sortie hein. On est mercredi 16 aujourd'hui, il y a un an avec Jeanlin je partais faire le Tour de France randonneur et bien en un an j'ai énormément progressé sur le matériel, j'ai beaucoup appris sur mon vélo effectivement quand je pars faire un ride, quel qu'il soit court ou qu'il soit très long, je suis beaucoup plus en confiance avec ma machine parce que je sais à quoi sert cette vis, je sais à quoi sert ce serrage. Et je le dis dans les différents podcasts, que ce soit dans celui-ci, dans la tête d'un cycliste, mais aussi dans Ultra Talk, et dans les différents échanges que j'ai avec les coureurs de la Réseau Cross France, c'est qu'il faut connaître sa machine. Il faut connaître sa machine si tu veux faire du long. Il n'y a rien de mieux que d'être conscient de ce qui peut arriver et de comment tu vas trouver la parade pour réparer.
Je crois que c'est très agréable d'un point de vue global et générique et c'est déterminant d'un point de vue de la performance, en tout cas dans la pratique qui n'est pas une pratique de haut niveau, qui ne veut pas dire qu'on ne cherche pas la performance, mais quand tu parles de ta race à Cross France, les coureurs qui participent, ils n'ont pas d'assistance, ils n'ont pas un camion, un mécano, un machin. Et la clé de la performance, c'est aussi de maîtriser son vélo et de maîtriser ce qui peut intervenir. Et alors, clairement, notre dernier échange sur cette partie-là d'entretien maintenance, hein, qui n'est que ce qu'on peut dire pendant 45 minutes de podcast, je sais que je suis toujours trop long, mais très clairement, ça et la formation, mais ça n'a fait que renforcer l'idée que j'ai que c'était quelque chose d'intéressant, d'important, et ça n'a fait que renforcer mon envie de continuer à aller dans ce sens-là avec toi dans les podcasts qu'on donne, mais aussi voilà de mon côté sur l'organisation de ces formations que je n'ai les moyens que de faire en petit comité une fois de temps en temps, mais j'en ferai d'autres parce que je crois que c'était vraiment bénéfique et c'était un moment d'échange super agréable, comme d'habitude.
Bon, bah écoute, n'hésitera pas à nous partager les dates. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui écoutent. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de GPS, d'applications et d'objets connectés. Et comme à chaque fois, je sais que tu portes toujours un regard avec un peu d'histoire sur l'arrivée des GPS, ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut annoncer un pourcentage, mais on voit quand même de plus en plus de personnes qui sont connectées, mais en même temps, beaucoup de personnes qui fuient aussi quelquefois, ou en tout cas pour certains de leurs entraînements, l'applicatif. Moi, le premier, il m'arrive quelquefois de partir sans rien, juste parce que j'ai envie de faire du vélo et non pas avoir le regard sur mon compteur pour voir si je suis en avance ou en retard sur mon segment, ou savoir combien de watts je développe à l'instant précis. Qu'est-ce que tu peux nous dire, JP, sur ce monde-là de l'utilisation du GPS?
Alors, je vais revenir sur tes deux thèmes d'introduction. L'histoire, on va faire très vite. Hein, l'arrivée du GPS, c'est 1989. Magellan qui commercialise le premier récepteur GPS. Donc, GPS Global Positioning System. Donc, c'est un ensemble de satellites, en fait, qui sont en orbite autour de la Terre et qui vont permettre à des appareils récepteurs d'être positionnés dans ce système. Il y avait 24 satellites, ils sont au nombre de 31, je crois, aujourd'hui. Enfin, bref, ils sont suffisamment pour donner une couverture satisfaisante et positionner l'appareil récepteur avec une précision de l'ordre du mètre. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis, ça positionne aussi en altimétrie. On y reviendra, il y a beaucoup de débats sur la précision de tel et tel système ou de tel et tel récepteur ou de telle et telle application, puisqu'il y a le software, le hardware et le système en lui-même. Donc voilà pour l'histoire, on va faire simple. Hein. Donc ça a une trentaine d'années, hein, si on fait grosse maille. C'est apparu d'abord dans le nautisme, dans la voiture. Maintenant, on l'utilise pour différents sports outdoor comme le vélo, mais aussi beaucoup le trail running et le running.
Avec les montres connectées complètement, oui.
Voilà, et puis pour cette brève introduction, je rebondis sur l'autre point, sur le fait que oui, c'est maintenant devenu ultra courant de voir passer un vélo avec un GPS. Ça remplace les petits compteurs à fil ou les petits compteurs sans fil qui pullulaient il y a encore 15 ans. Maintenant, presque tout le monde a un GPS, presque tout le monde l'utilise, mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Toi, tu le disais aussi. Alors moi, j'ai eu l'occasion de co-sponsoriser un petit événement qui a eu lieu la semaine dernière avec une appli de navigation. Et quand le responsable me posait des questions, je lui dis que j'étais un très mauvais client puisque je m'efforçais presque d'oublier mon matériel les rares fois où j'arrivais à m'échapper pour rouler. Tant le GPS que le téléphone, si je les oublie à l'atelier, ça me va bien et ça me permet de vraiment déconnecter. Donc, je suis pas le meilleur client pour ça. Mais il y a plein de gens qui sont exactement dans l'inverse. Est-ce qu'on peut parler d'extrême ou pas? On va y revenir.
Mais après, en fait, l'extrême va être tous les objets connectés dont on peut parler après, qui viennent s'additionner, qui viennent s'ajouter à l'écran et qui te donnent des informations. Parce que c'est vrai que ce qui est vraiment pratique dans l'utilisation du GPS, c'est vraiment de pouvoir mapper et de pouvoir savoir où tu es, et d'après, derrière, de pouvoir avoir un carnet digital, on va dire ça comme ça, de tes sorties pour cumuler soit ton dénivelé, soit tes kilomètres, soit ton nombre d'entraînement. Ça, c'est plutôt agréable. Moi qui ai connu le cahier papier où je notais précisément la température qu'il faisait dans ma sortie, la météo, le sens du vent, le kilométrage, je n'avais pas le dénivelé à l'époque, tu vois, hein, quand j'étais sur des carnets d'entraînement papier, je n'avais pas le dénivelé de ce que je faisais. Et on avait ces petits compteurs fluorescents à l'époque, je me souviens, qu'on mettait sur nos guidons et qui étaient filaires avec deux boutons seulement.
Avec le petit fil autour de la fourche.
Exactement. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que ça a énormément évolué. Aujourd'hui, il y a quelques marques, hein, 3-4 marques qui se tiennent sur le marché. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, d'une marque à une autre? Est-ce qu'il y a vraiment...
Alors, déjà, je voudrais... C'est aussi peut-être ce qu'on fait à chaque fois. On fait un peu d'histoire et puis je fais un peu de sémantique. Tu as vu, on a dit GPS directement. Le titre de l'épisode, c'est les objets connectés. Et si on fait un peu d'anglicisme, on appelle ça bike computer ou computer en langue anglaise, ce qui, à mon avis, a plus de sens, surtout vu la myriade d'objets qui vont être raccordés à ce point central ou à ce point névralgique du cycliste connecté. Les GPS, c'est une fonctionnalité de cet ordinateur de bord. Hein, le terme français, c'est ce qu'on devrait dire. C'est un ordinateur de bord. On utilisait ça... tu te rappelles aussi dans l'introduction de l'électronique dans les voitures, on a un ordinateur de bord. Le GPS est une des fonctionnalités. Les marques, pardon pour ça, mais je voulais le redire parce que du coup, ça donne quand même plus de sens. On a un ordinateur de bord qui va centraliser plein de fonctions dont l'une est le positionnement et on va voir que ça permet effectivement de stocker pas mal de data et de faire un carnet de bord suivi et digitalisé. Les marques en présence, c'était sur ça que tu me sollicitais. Ouais, soyons complètement francs, il y en a deux grosses. Voilà, qui se partagent les deux plus grosses parts du gâteau, qui sont Garmin étant un des tout premiers. On parlait de 1989 avec Magellan, Garmin c'est 1990, hein, donc c'est juste après, donc pionnier Garmin, très clairement. La deuxième marque, c'est Wahoo. Voilà, et puis tu disais qu'il y en avait 3-4, en fait, allez, rapidement, on va dire qu'il y en a 3-4 qui émergent derrière, en fait, qui courent derrière les deux grands, qui sont Karoo, qui sont Polar, qui sont Brighton, qui sont Mio. Et puis, je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui apparaît tous les jours en ce moment parce que c'est clairement un marché en effervescence totale. Il me semble qu'on a déjà évoqué le sentiment qu'on partageait tous les deux sur ce qu'allait être le vélo de demain ou d'après-demain avec le développement des objets connectés et des fonctionnalités.
Ben en fait, l'objet connecté, le vélo de demain, nous amène à parler, on va voir toutes les applis également, les objets connectés, mais sur la prédictibilité de la performance. Alors certes, oui, ça va toucher peut-être 2% des gens qui peuvent nous écouter, mais le monde du professionnalisme, qui est l'épisode d'après d'ailleurs, on va parler du matériel entre les pros et les amateurs, mais la prédictibilité, ça part des data que tu peux collecter d'un sportif, en l'occurrence le GPS, les applis et les objets qui tournent autour. Et ça, aujourd'hui, des clouds te permettent de dire en tout cas, soit à la direction de course, soit au cycliste, en fonction de la météo, des efforts que tu as fait aujourd'hui, plus ceux que tu as fait précédemment, avec le sens du vent, avec la position que tu as sur le vélo, main en bas des cocottes, main dans le creux du guidon, je veux dire, en haut des cocottes ou en haut du cintre, en fonction des trois positions du cycliste, avec un coefficient de pénétration dans l'air, aujourd'hui, le directeur de course est capable de dire à quelques secondes près combien son coureur va mettre dans une ascension. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là depuis 2 ans pour un projet de Tour du Monde où je le voulais connecter. C'est-à-dire que je voulais être équipé de capteurs pour connaître justement, précisément, quelle allait être la route que je pouvais utiliser en fonction de ma forme physique. Et ça existe, hein. C'était pas du délire de faire ça. J'ai travaillé avec IBM à Chicago, avec Doug Barton notamment, qui était responsable à cette époque-là de tout ce qui était cognitif chez IBM. Et c'était passionnant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé en Laponie avec Core Bodytem pour connaître la température de mon corps, que je suis proche également de Super Sapiens sur la glycémie. Et en parlant de ça, je pense à notre ami Jean-Yves Coupu, qui est également très, très, très près de tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, pas pour le côté d'améliorer ma performance, mais toutes ces données, je trouve, sont passionnantes si tu sais bien les utiliser, ce qui représente peut-être 2 à 5% des gens qui font du vélo. Très clairement.
Oui, clairement. Et je dois être dans les 95 à 98% pour le coup. Mais c'est ce qui va faire la richesse du débat entre nous. Alors, on est dans un monde de data. Ça fait 10 ans déjà que l'enjeu majeur dans le monde, c'est la data. Et tout ce qui se passe, tous les événements de la vie de tous les jours, on est en crise sanitaire. Alors, personne ne le voit, mais je mets des gros guillemets avec mes mains. On ne va pas rentrer dans ce type de débat-là. Mais néanmoins, l'enjeu encore ici, c'est la data. C'est la data, la data, la data, la data. C'est la monnaie d'échange d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas dire demain, demain n'existe pas encore, mais la monnaie d'échange d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la data. Donc oui, il y a plein de bénéfices à tirer de ces data et de ces capteurs. Chacun en fait ce qu'il veut, mais le vrai bénéfice financier, il est pour les gens qui vont exploiter cette data après, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut aussi avoir ce regard de fond, ce regard distancié pour savoir si on veut rentrer dans ce système ou on ne veut pas. Enfin, voilà, c'est pas le débat d'aujourd'hui, Arnaud, et je vais pas polluer le discours avec ça, mais n'oublions pas ce prisme-là, parce que plus on rajoute de capteurs et plus on donne de la data, plus cette data elle nous échappe, in fine. Après, je suis, comme toi, sensible au fait que, étant quelqu'un de scientifique à la base, disposer de data pour analyser et comprendre ce qui se passe, je trouve ça génial. Dire qu'après, ça doit être quelque chose de quotidien, ou moi, je vois beaucoup dans la petite communauté de clients que j'ai, des gens qui se dotent de plus en plus de capteurs. On va essayer de faire la liste non exhaustive, et puis on fera peut-être une liste prédictive, parce qu'on en a parlé tous les deux en préparant l'épisode, mais de tout ce qui va pouvoir se raccorder à cet ordinateur de bord qui va centraliser. Mais clairement, j'ai des gens qui achètent des capteurs et des fois, je me demande
Mais
pourquoi.
tu sais,
C'est-à-dire que
c'est exactement comme les iPhones. Aujourd'hui,
c'est un peu pareil. Soit ils vont avoir de la data partielle, soit de toute façon, ils ne vont pas l'analyser, ils vont juste la collecter, soit ils ont été induits en erreur sur qu'est-ce que ça pouvait leur apporter ou comment ils devaient l'utiliser. Donc, mais c'est un peu comme toujours. On a quelque chose qui explose, c'est même plus du développement, hein. C'est vraiment de l'explosion. Et puis, bah, la façon dont les gens vont interpréter, recevoir le message diffère beaucoup en fonction de la pratique du cycliste. Je pourrais dire même de son positionnement socioprofessionnel,
oui,
de
tout à
sa
fait.
maturité technologique. Donc, moi, c'est ce côté sociologique de l'impact de l'objet connecté. Allez, restera en vélo pour notre matinée, Arnaud. Ça, je trouve intéressant.
Mais après,
Mais
tu sais, le GPS qu'on a sur nos vélos, il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on l'utilise vraiment, est-ce qu'on l'optimise? Certains font juste
non. Qui?
appuyer pour
Alors
lancer
là, on est dans des
l'entraînement et
pourcentages.
terminer l'entraînement, c'est tout.
L'usage principal, très clairement, de cet ordinateur, c'est, en tout cas, l'usage le plus courant, c'est l'enregistrement d'une sortie. Si tu vas dans n'importe quel groupe de vélo, tu as des gens qui ne vont même pas utiliser les fonctionnalités de cartographie à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas préparer une map, ils vont choisir un groupe et ils vont utiliser l'ordinateur comme un enregistreur de bord finalement qui va décrire leur parcours positionné, géolocalisé avec la fonction de GPS et qui va enregistrer leur moyenne, l'altimétrie parcourue, la fréquence cardiaque s'ils ont le capteur de fréquence cardiaque, pourquoi pas la glycémie s'ils ont un capteur de glycémie, etc., etc. Ça, c'est l'usage numéro un. Tu me corriges si ton expérience est différente, hein, mais de ma vision, c'est ça. L'usage numéro deux, c'est-à-dire la deuxième couche de l'utilisateur lambda, je ne suis pas en train de parler de cycliste professionnel, c'est la cartographie au sens préparation de parcours en lui-même. Alors ça, c'est déjà, on est moins dans le cyclo-sportif et plus dans l'aventurier, on va dire, ou le cycliste longue distance. Je crois que tout ça s'overlappe tellement que c'est très difficile de trouver un terme. Mais il y a des gens qui passent énormément de temps sur la préparation de l'itinéraire. J'essaie de revenir à des termes francophones et qui vont utiliser. Alors c'est pareil, il y a une offre sur le marché assez importante. J'en parlais tout à l'heure sans le citer, mais on peut parler de Komoot, on peut parler de Strava, on peut parler d'OpenRunner. Voilà, il y en a d'autres
Il y a Visu GPX, il y en a plein.
qui sont des applis qui vont te permettre de préparer un tracé. Alors, plus ou moins précis, plus ou moins adapté en fonction des différentes qualités de ces différentes offres logicielles et encore une fois de data, puisque ces offres logicielles, elles reposent aussi sur une qualité de data, c'est-à-dire qui exploite quelle cartographie, puisque des fois, ces applis logicielles vont utiliser des cartographies qui sont déjà existantes et qui sont faites par des gens qui ne sont pas du monde du vélo nécessairement. Repensons à l'objet de la data, à l'intérêt de la data, mais voilà, donc. Ça se développe beaucoup. Ça permet pour plein de gens, une meilleure planification en termes de temporalité. Combien de temps je vais rouler aujourd'hui? Est-ce que je vais me perdre, pas me perdre, etc. Donc, pour certains, ça peut être l'aventure sans l'aventure. Finalement, se dire, bah, on est des aventuriers, normalement, on part et puis on s'ouvre à la surprise. Et d'autres qui vont dire, nous, on est des aventuriers, mais on maîtrise notre parcours. Et tu as des gens qui sont carrément, qui ont une dextérité. Moi, je connais personnellement des gens qui mappent ultra bien parce qu'il ne va jamais rien leur arriver, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils vont passer au bon endroit, que le vélo passe, que le terrain est dégagé, ils vont aller avoir une vue fine de maps, d'une image satellite, et ça prend énormément de temps. Et pour des trips longue distance, tu me corrigeras aussi parce que toi, tu es un adepte de la chose, mais des fois, le mapping, il peut prendre une bonne partie du temps que tu vas passer sur le vélo.
Le mapping fait partie de la préparation. Tu as la préparation physique, tu as la préparation matérielle et tu as la préparation de ta carte, très clairement. C'est-à-dire que tu dois, comme pour ton vélo, on parlait avant d'enregistrer, ou même en introduction d'ailleurs, de comment fonctionne son vélo, je pense que son GPS, c'est pareil. Tu dois connaître parfaitement toute l'utilisation de ton GPS pour l'optimiser. Si tu fais juste play quand tu pars t'entraîner et pause, stop quand tu arrêtes, faut pas investir autant d'argent dans un GPS, très clairement. Mais oui, le mapping est très très important.
Il y a des GPS simples qui font encore que ça, mais finalement, peut-être qu'on verra naître un nouveau besoin. Mais aujourd'hui, l'offre, c'est soit quelque chose de très perfectionné. Tu faisais une analogie à l'iPhone, elle est assez évidente, d'ailleurs.
Oui, au smartphone en général, mais on a tous des objets qui sont hyper, hyper sophistiqués, mais on les utilise à 5%.
C'est pareil avec notre cerveau, il paraît. Très clairement, les besoins diffèrent en fonction de chacun. Mais là, on a balayé les deux principales utilisations, celles qu'on voit au quotidien. Après, évidemment, ces appareils qui font 10 cm par 5 cm, ils sont ultra perfectionnés. Ils ont des possibilités dingues. Et je pense que le niveau d'exigence et la profondeur d'utilisation de ces appareils dépend encore une fois de la pratique du cycliste. Toi, évidemment, tu vas y raccorder tout un tas de capteurs et de plus en plus. Mais
et tu verras que dans l'avenir, JP, on parlait de prédictibilité. J'avais discuté il y a quelques années de ça quand je parlais de ce projet Tour du Monde connecté. Il y a certaines marques qui sont très, très intéressées. Pour, par exemple, on parlait de néo-pratiquants avant d'enregistrer, tu sais, la nouvelle vague de néo-pratiquants dans le cyclisme qui arrive et qui veut se lancer dans le cyclisme. Mais pourquoi pas un jour avoir un compteur qui t'envoie une alerte et qui te dit, avec la température qu'il fait aujourd'hui, la vitesse à laquelle tu vas, ton poids, ton âge, là, tu devrais t'hydrater et boire 2 gorgées d'eau. Tu vois ce que je veux dire ?
On l'a déjà dit, ça, et clairement, bien sûr, ça arrive. Ça va arriver même
très vite.
Vite qu'on ne le pense. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va aussi venir mettre son grain de sel là-dedans. On ne peut pas séparer les objets connectés, la data, l'intelligence artificielle. Tout ça est fait pour travailler ensemble. C'est le système qui est comme ça. Et très clairement, en fait, ce qui va se passer aujourd'hui déjà, tu as des ordinateurs qui vont te dire attention, devant toi, sur la map que tu as tracée, il y a une côte qui fait tant de pourcents, etc. Et aujourd'hui, elle va te dire bon, vas-y, il faut que tu pédales, elle va t'encourager. Tu sais, tu as déjà ça. Moi, j'ai un ordinateur, j'ai un GPS Garmin, et qui te dit là, vas-y, force un petit peu parce que ça serait bien que tu fasses un score, quoi. Demain, je suis persuadé que ton ordinateur personnel, ton Garmin, ton Wahoo, etc., va aussi avoir dans le software une capacité d'apprentissage. Tu sais, allez, je fais ma petite analogie à l'automobile que j'aime tant. On a dans le domaine de l'automobile des boîtes de vitesse automatique qui sont auto-adaptatives. Eh bien, je crois très fort à ce que ton ordinateur de bord de vélo sera bientôt auto-adaptatif. Il va apprendre qui tu es. Tous les jours, il est utilisé par Arnaud Manzanini. Arnaud va avoir un capteur de puissance, un capteur de glycémie, je ne sais quoi d'autre. Et il va se dire, OK, là, je suis en train de déterminer mon profil de cycliste. Et demain, je vois qu'il aborde telle côte avec tel pourcentage, qui fait telle température, qui fait tel taux d'hygrométrie, parce que c'est important et ça joue aussi sur la physiologie. Eh bien, je vais lui dire effectivement qu'il faut qu'il consomme tant de calories et qu'il faut qu'il s'hydrate de tant de millilitres avant l'ascension. Et comme peut-être si j'ai un tracking très précis de sa glycémie, je sais qu'il va mettre tant de temps à assimiler, etc., et bien je vais lui dire une demi-heure à l'avance parce que je sais que dans une demi-heure, il doit être en haut du col.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Et donc, alors, je ne donne que des faits, des faits qui vont se produire bientôt. Je fais une prédiction, mais on y est là.
Chez les professionnels, je pense qu'on y est déjà, puisque moi, quand j'étais en contact avec IBM il y a 2 ans, 3 ans, IBM avait déjà à l'époque signé un contrat d'exclusivité avec, à l'époque, c'était la Sky, pour travailler sur tous ces aspects-là.
Technologiquement, il n'y a pas de barrière aujourd'hui, d'accord ? On sait le faire, en fait.
Exactement.
On reparlera du delta de temps. entre pro et non pro, ça pourra faire l'objet d'un retour sur ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, mais très clairement, c'est faisable. Quand est-ce que ça va arriver sur le grand public? Quand est-ce qu'on aura une IA assez souple et assez bon marché pour l'intégrer dans tous les appareils et qui puisse travailler avec un minimum de data? Parce que bah, dès lors qu'on fait une offre grand public, il faut que ça puisse fonctionner à tout le monde. C'est plus difficile d'apprendre pour quelqu'un qui va mettre son GPS une fois par an que quelqu'un qui va mettre son GPS tous les jours. Donc les freins, ils sont là. La technique, elle existe déjà. Et on l'utilise dans le très haut niveau et pas que dans le vélo, bien entendu. Voilà, mais l'avenir, c'est ça. Et c'est vraiment le rôle central de cet ordinateur de bord que d'être la plateforme d'enregistrement de la data qu'on va toujours géolocaliser parce que c'est aussi un enjeu de ce big data, c'est de savoir où sont les gens et comment ils se déplacent. Et j'essaye à chaque fois de ne pas faire trop de commentaires teintés de subjection parce que voilà, on doit toujours s'interroger si y a du bon ou du moins bon. Quand on géolocalise les flux, eh bien on surveille les gens et puis d'un autre côté, on peut voir un aspect positif de dire que si on sait comment les gens se déplacent, on peut organiser d'un point de vue urbain ou périurbain les espaces, les circulations, etc. Donc tu vois, c'est toujours yin et yang, hein, c'est toujours la même chose. Donc, il faut toujours avoir en tête ces deux aspects quand on aborde ce sujet de la data. En tout cas, j'essaie d'avoir cette vision balancée. Mais je reviens, j'essaie de rebondir sur un autre épisode. Donc, demain, moi, GPS, Marc XX d'Arnaud Manzanini, je vais te dire, OK, alors attention, là, on est à 30 minutes du démarrage du Ventoux. Donc, tu vas boire un demi-bidon, tu vas prendre 2 barres de ta marque préférée. Et tu vas te caler à 200 watts pour te préparer à l'ascension. Et ben, je vais aller encore plus loin. Tu seras équipé d'une transmission électronique et juste au moment où tu vas mettre ta roue avant au démarrage de l'ascension, et ben, paf, elle va shifter directement à la bonne vitesse pour que tu gardes ta cadence et ta puissance. Et c'est très clairement ce qui va se passer. Et alors, j'en reviens à notre petite discussion d'avant l'enregistrement. Peut-être que demain, elle donnera aussi l'information à tes chaussures qui seront lacées avec un boa, ou peut-être que Reebok va réintroduire les années 80 et le système pump
ça serait mon rêve.
Dans les chaussures de vélo, j'adorerais juste pour le look, et que ça gonflera ou que ça dégonflera parce que on a noté une augmentation de la température corporelle au niveau de ta voûte plantaire et qu'on sait que tes pieds sont en train de gonfler. Alors ça paraît délirant ce que je dis, tu crois? Je suis pas sûr, moi.
Bah, écoute, on en a parlé juste avant. Moi, c'était la réflexion que je me suis fait hier lors d'une sortie gravel où, bah, au bout de 2h30, un peu de frottement, un peu d'échauffement, les pieds qui commencent à brûler parce que la température extérieure, à un moment donné, monte. Et moi, ce que j'ai pu constater en essayant d'être un maximum à l'écoute de mon corps, c'est que dès que la température dépassait un certain degré, température ambiante, ça provoque un échauffement, en tout cas une des douleurs à la voûte plantaire. Donc bah, tu desserres ta chaussure, mais comme tu es en gravel dans les bois et tout, c'est pas facile. C'est encore pire quand tu es en fixie. Donc tu essaies de desserrer ton boa. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas un objet connecté au guidon qui me permettrait de serrer, desserrer ma chaussure, tu vois, on va dire à distance. Un jour et peut-être.
Tu vois, c'est toujours la même idée. Il y aura pour toi probablement une chaussure avec un boa que tu desserreras avec un bouton sur ton GPS au guidon. Et puis pour moi, il y aura des chaussures à lacets. Et je m'arrêterai et je prendrai le temps de boire un coup, de prendre une photo et je repartirai avec les lacets un peu moins serrés sur la chaussure. Donc, encore une fois, c'est le marché qui va dicter
bien sûr.
Dans quel sens ça va aller. Parce que ce qui est sûr, c'est que les marques et les ingénieurs vont développer ce qu'on vient de décrire dans les 5 minutes. Alors, je ne suis pas Madame Irma, toi non plus, Arnaud, mais très clairement, les technos d'aujourd'hui, les matériaux d'aujourd'hui, le niveau d'ingénierie d'aujourd'hui permettent de réaliser exactement tout ce que je viens de dire sans que ça ne soit un fantasme. Et on est, je ne suis pas en train de te dire dans 5 ans. Hein, je veux dire, si aujourd'hui, quelqu'un voulait le faire, il pourrait le faire. Et quelqu'un va le faire. C'est l'acceptation de l'idée. La naissance de ce besoin qu'on induit en créant une solution, c'est ça qui va faire que oui ou non, ça va pousser dans ce sens-là. Il y aura des essais, ça c'est sûr et certain. La transmission électronique est sur une courbe de progression qui est très importante. Il est impensable qu'elle ne soit pas très vite reliée de manière universelle à n'importe quel ordinateur de bord. Aujourd'hui, tu peux déjà, et je vais citer des marques, mais avec tes boutons de DI2, tu peux déjà contrôler ton GPS Garmin ou ton GPS Wahoo. Si ça communique dans un sens, ça va pouvoir communiquer dans l'autre sens. D'accord ? Donc, est-ce que les cyclistes veulent ça ? Est-ce que les cyclistes veulent que le vélo passe les vitesses toute seule ? Je ne sais pas. Mais la technique, elle est capable de faire ça. Et quand tu disais la myriade d'objets connectés, c'est évidemment ton GPS t'avertit déjà que tu as un coup de fil, puisque tu roules avec un GPS, mais tu as aussi ton téléphone dans la poche. Ouais. D'ailleurs, sur Google aujourd'hui, si tu tapes GPS, phone, bike, tu as je ne sais plus à combien de résultats d'articles sur qu'est-ce qui est mieux, utiliser son téléphone ou utiliser son GPS pour faire du vélo. C'est une question de préférence perso, mais je crois qu'il y a finalement peu de chances que le téléphone remplace le GPS, parce que ça ferait un objet de moins qu'on vendrait et qui est plus spécialisé. On aime bien spécialiser parce qu'on vend plus et plus cher. Donc, le GPS va rester, le téléphone va être peut-être l'objet avec la bonne appli, évidemment, pour les gens qui ont une pratique moins profonde. C'est peut-être ça qui va se passer. Mais aujourd'hui, sur ton GPS ou ordinateur de bord, tu peux déjà connecter ton téléphone, connecter le Wi-Fi de ta maison pour évidemment transvaser les datas. Tu peux connecter ta transmission et ça va évoluer, ça je le prédis. Tu peux connecter un capteur de cardio. Tu peux connecter X capteurs de puissance au niveau des pédales, du pédalier. Voilà. Tu peux capter de la glycémie. Il y a de plus en plus de capteurs dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie sportive, des capteurs de gaz digestif. Mais pourquoi pas ? On pourra aussi dire, OK, par rapport à ce que tu as mangé, ce que tu as ingéré, dans ta sortie Strava, je vais avoir la teneur de tes gaz digestifs. Et donc, waouh, là, tu as une teneur en hydrogène trop importante. Il faut manger moins de choux avant ta prochaine sortie, tu vois. Donc, pourquoi pas ?
Tu peux avoir déjà la température corporelle, intérieure, à fleur de peau,
la température
ou dans
corporelle.
Ton corps.
Et pourquoi pas, on revient à tes histoires de pieds, mon cher Arnaud, mais pourquoi pas la température à l'intérieur de tes semelles ? On est sur un point de contact hyper important. Pourquoi on ne mettra pas des capteurs de pression dans la paume des mains, dans les gants directement intégrés ? Tu as tes gants, voilà, enfin, tout ça. Pourquoi on ne met pas un capteur de... Enfin, on a un casque sur la tête, il y a énormément de points sur la tête où on va capter de la data, un capteur de pression artérielle, pourquoi pas, enfin, il y a tout plein de choses. Ils vont arriver dès lors qu'il y a voilà, une brèche pour aller s'engager là-dedans, et tous ces trucs-là, ils vont arriver. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut pas ça, c'est le marché qui va décider, mais très clairement le GPS va jouer un rôle central. Donc oui, les appareils vont devenir de plus en plus complexes, très clairement. Aujourd'hui, entre les appareils très complexes qui coûtent, c'est relativement cher, hein, ces appareils, on est sur des prix assez comparables au téléphone finalement. Un GPS haut de gamme aujourd'hui, en fonction de la marque, va coûter entre 500 et 800 euros, je veux dire, voilà, dépourvu d'accessoires. Et à côté de ça, on va trouver des GPS beaucoup plus petits, accessibles peut-être à 150 ou 200 euros, si on reste dans des marques qui ont pignon sur rue et qui vont te proposer un tout petit écran monochrome, pas très lisible, qui sont pour l'instant l'évolution du compteur filaire d'avant. Est-ce que ça va se segmenter encore plus ? Probablement. Probablement. Et la vague de gens qui sont en train de se mettre au vélo va créer une diversité d'offres. Est-ce qu'on a tous besoin de tous ces capteurs ? La réponse est non. Est-ce qu'il y a plein de gens qui vont acheter des capteurs alors qu'ils n'en ont pas besoin ? La réponse est oui.
Oui, ouais, c'est clair.
Et est-ce que ça va continuer de bouger dans tous les sens ? La réponse est oui. Évidemment, le software va bouger, le hardware va bouger. On n'a pas parlé, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet sur soi quand on fait du vélo ? On a aussi des lunettes connectées.
Des lunettes connectées, bien évidemment, en fonction du regard, de la
maintenant,
fatigue.
Maintenant, tu n'auras plus besoin de savoir si ton écran il est petit ou grand, ou si tu vois bien, ça s'affichera directement à côté de ton œil ou sur une petite palette avec un verre qui sera sur ton casque. Alors moi, il y a un objet connecté au GPS que je trouve assez fabuleux. C'est la lumière avec le radar. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as testé. Moi, je l'ai testé. Elle est chez Garmin. On ne va pas s'embarrasser, on va le dire. Et bien, cette petite lumière que tu mets à l'arrière de ton vélo et qui te prévient qu'il y a une voiture, parce qu'avec le sens du vent et le bruit, tu n'entends pas forcément la voiture arriver derrière, mais d'une, elle flash pour prévenir l'automobiliste qu'il arrive. Donc, elle prévient qu'il y a un cycliste. Et de deux, elle te fait une alerte et elle te met même la distance à laquelle la voiture est derrière toi. pour te dire, voilà, ça c'est un élément de sécurité que je trouve assez formidable. Donc je me permets de le souligner.
Tu fais bien, complètement.
Pour moi, ça va clairement dans le bon sens pour tout le monde. Donc j'espère aussi que dans ces objets, on aura des objets plus simples avec des fonctions plus vitales. Parce qu'on peut encore faire beaucoup de choses sur la sécurité du vélo. Je crois que c'est un sujet qu'on avait entrevu comme étant une grosse marge de développement de produits et donc évidemment un gros gâteau économique aussi. Et pour l'instant, je reste sur ma faim de ce point de vue-là. Je pense qu'on n'a pas encore tout travaillé d'un point de vue de la sécurité sur le vélo.
Alors, on parle d'objets connectés, on parle de sécurité et à quand, mais ça existe certainement, tu vas nous le dire, je vais te relancer sur le sujet, les bouchons de valves connectés qui permettent de donner la pression et d'indiquer, c'est un élément de sécurité.
Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ça existe. Je crois que, alors, il y a Quark, qui est groupe SRAM, Zip, etc., qui en fait, depuis déjà quelques temps, une petite solution qui s'appelle TireWiz, que je suis en train de terminer d'évaluer en ce moment, justement. Donc, je reviens plus précisément sur eux, si tu veux, dans une minute. Mais je crois que sur la sphère des réseaux sociaux, dans les trois dernières semaines, il y a deux nouvelles marques qui sont rentrées sur le marché. Pour aller encore plus loin, il y a une marque de roues qui vient d'arriver sur le marché il y a quelques mois, qui te propose d'avoir un contrôle de ta pression, c'est-à-dire non pas juste de voir ta pression affichée, mais de regonfler tes roues, dégonfler tes roues tout en roulant sur le vélo. Tu ne la connaissais pas, celle-là.
Je vois
tes yeux
pas.
Écarquillés. Eh bien, ça existe. Donc, évidemment, c'est propriétaire. Voilà, ce n'est pas une solution universelle, c'est cette marque de roues. Mais alors, il y avait déjà eu ça sur d'autres véhicules, hein, avec pas des besoins de grand public, mais c'est déjà des choses qui ont existé. Dans le vélo, c'est nouveau. Personne ne va être surpris. Si j'ai un capteur sur mon vélo, c'est le capteur de pression sur les roues. C'est ça que je teste, évidemment. Je pense que c'est tellement le paramètre le plus simple sur lequel on peut jouer et le plus prégnant sur la performance et l'expérience. Je préfère parler de ce mot-là, l'expérience qu'on a sur le vélo, que oui, je suis en train d'évaluer la solution de chez Quark, mais que je vais regarder les autres également. Et a priori, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt satisfaisant. C'est pas très cher, ça nécessite pas une débauche technologique incroyable, et en fait au-delà de visualiser proprement sa pression, ce qui permet du coup avec une mini pompe de regonfler et de connaître sa pression, il y a un mano intégré, il y a aussi un système d'alerte, c'est-à-dire que on va définir ton profil de pression pneumatique. Tiens, je pourrais inventer ce mot-là pour vendre un truc super intéressant.
J'ai pas calculé.
Mais en fait, de manière plus directe, on pourra calculer les pressions idéales avec ta section de pneus, ton poids, etc. On ne va pas refaire l'épisode sur la pression. Et dire, OK, Arnaud, là, pour cette aventure-là, il roule en 650-48, il fait 80 kilos. On a dit qu'il fallait qu'il roule à 2 bars. Et on va définir la bande passante de la bonne pression entre 1,8 et 2,2. Et donc aujourd'hui, c'est ton téléphone, mais demain, ça sera certainement aussi ton ordinateur de bord, va t'envoyer une alerte en disant « Attention, tu es descendu ou tu es monté au-delà de ton scope. » C'est-à-dire que là, soit tu roules en surpression, soit tu roules en sous-pression. Et donc, ça te dit « Ok, tu t'arrêtes et tu corriges. » Et ça peut être intéressant aussi. Pour plein de raisons, parce que des fois sur plusieurs jours tu vas pas tout le temps penser à regonfler, et puis là on va te dire ok, là t'es clairement sous pression, donc il faut que t'en remettes un petit peu pour pas prendre un risque dans un virage ou voilà une problématique comme ça. Donc moi, c'est des capteurs que je trouve simples et intéressants. Voilà, je suis en train d'en tester de tester une version de la chose, j'en testerai d'autres, mais voilà, ça existe. Et donc ces roues qui te permettent de gonfler et de dégonfler au guidon existent aussi désormais. Donc, tu vois, ça suscite de l'intérêt.
Ben écoute, merci JP pour ce tour d'horizon GPS, appli, objet connecté. Et c'est vrai, quand on pense objet connecté, on pense quelquefois performance, mais pas que. Tu viens de nous l'expliquer, il y a aussi un gros aspect sécuritaire. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc merci à toi pour ce tour d'horizon, tout ce qui est GPS, appli, objet connecté. Je te souhaite une bonne journée et puis écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
À très bientôt, Arnaud.
À bientôt.